Aujourd'hui, nous fêtons Saint-Laurent et l'Église nous propose des lectures agricoles. C'est tout à fait intéressant de voir l'abondance, c'est le cas de le dire, du vocabulaire agricole. Et c'est déjà en soi un enseignement. Les pères cisterciens insistent beaucoup, je crois, sur le fait que la nature est un livre qui nous parle de Dieu et qui nous parle du royaume. Et là, on assiste vraiment à ça, notamment donc dans cette première lecture de Paul, de deuxième lettre aux Corinthiens. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir donc un peu aussi ce vocabulaire. Cette fois-ci, je prends le texte grec. Bon, il existe, les protestants ont eu la bonne idée de faire ça, un Nouveau Testament interlinéaire grec-français, qui permet, si on a quelques petites notions de grec, au moins pour lire les mots, de voir ce qui est écrit en dessous. Et alors là, on est assez surpris. Parce que dans notre texte, nous avons quelque chose d'un peu différent aujourd'hui. En effet, il est écrit « À semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. » Et en grec, il y a écrit quelque chose d'intéressant. « Celui semant chichement, chichement aussi, il moissonnera. » Bon, jusque-là, ça va. Et celui semant avec bénédiction aussi, il moissonnera. Eulogiais. Et je trouve ça tout à fait intéressant de voir que, en fait, l'abondance qui est désignée est immédiatement mise en relation avec une bénédiction. Alors évidemment, en français, ce serait difficile peut-être de lire ça. Encore qu'à mon avis, c'est le rôle de l'homélie d'essayer d'éclairer progressivement les passages un peu compliqués. Mais voilà, en tout cas, il y a cette bénédiction qui arrive. Et qui donne un sens un peu différent. Alors on comprend après qu'il soit question plusieurs fois de surabondance, d'abondance, vraiment cette idée de bénédiction, où le travail de l'homme, quand je dis l'homme, je dis la femme, hein, le travail que produit la créature, reçoit d'autant plus de bénédiction qu'elle n'est pas calculée. Et alors nous avons cette idée d'absence de calcul dans la citation qui est faite hein, du psaume 112e. Donc en grec, il a dispersé, il a donné aux indigents. Et alors, j'ai été regarder le mot dispersé, escorpicen. Et là aussi, c'était très intéressant parce que scorpizo, ça veut dire dispersé. Donc rien d'extraordinaire, mais quand on va voir les occurrences dans le Nouveau Testament, on s'aperçoit que c'est la seule fois où ce mot est utilisé pour parler de la nature végétale. Dans tous les autres cas, il est mentionné pour parler de le loup qui disperse les brebis, enfin. Donc on a vraiment l'impression de quelque chose qui crée un mouvement extrêmement large voilà, c'est vraiment ce qui fait fuir, j'allais dire, qui est à l'opposé de ce qui garde, de ce qui retient, de ce qui préserve, etc. Donc il y a cette idée de semer extrêmement largement, sans regarder trop à quel endroit on sème. On sème largement, ça nous rappelle la parabole dont parle Jésus. Le grain a été semé au bord du chemin, dans les ronces. On se dit, non, mais attends, donnez-moi un agriculteur qui sème comme ça, quoi. On sème pas dans les ronces et on sème pas sur le bord du chemin. Eh ben ouais, mais Dieu y fait. Dieu fait comme ça, il nous dit, faites pareil. Semez là où ça doit pas pousser et vous inquiétez pas, on va gérer le truc. Alors évidemment, dans la parabole que j'évoquais tout de suite, bah en fait, les ronces vont empêcher de pousser. Mais les ronces, on peut les enlever. Voilà, donc il y a cette idée en tout cas que si on est chiche, si on mesure tout ce qu'on donne, on n'est pas très idoine pour le royaume de Dieu. En tout cas, c'est ce que nous dit l'Écriture. Et ça me paraît à relever. Évidemment, ça nous parle aussi beaucoup de ce que fait le pape François, notamment sur la pauvreté, sur cette idée de fuir l'esprit de préservation. Bon, avec les délicatesses politiques que ça peut amener, hein, c'est entendu. Néanmoins, nous sommes des voyageurs sur terre. C'est parfaitement exact. Voilà, comment l'évangile peut alimenter la vie politique, c'est une vaste question. Et puis dans l'évangile, alors l'évangile, il est un peu moins drôle, si je puis dire, parce que l'évangile, il est habituellement interprété dans la circonstance où Jésus prononce ses paroles. Donc c'est des circonstances où on est en train de comprendre que Jésus va mourir. Un de ces jours, ça va mal se finir, comme on dit. Et donc, toutes nos traductions, j'ai été en regarder un certain nombre, nous disent, si le grain de blé. Et alors là, on a une mention assez intéressante. Je suis allé regarder la traduction de Sœur Jeanne d'Arc dominicaine, les évangiles, les quatre, Matthieu, Marc, Jean, Luc et Jean. Et j'étais regardé ce qu'elle écrivait. Je fais une petite digression. La majorité des traductions de la Bible ont été faites par des hommes. La femme peut voir les choses différemment. Au moment où on fait des traductions, la femme peut trouver un mot différent parce qu'elle juge que c'est différent. Notamment quand vous prenez la première traduction d'une Bible par une femme, c'était en 1871, Julia E. Smith, donc une américaine. 1876, j'ai dit 71, je sais pas pourquoi, 1876. Donc c'est en anglais, hein. Évidemment, c'est du vieil anglais, voire du vieil américain d'ailleurs. Bon, ça se trouve sur Internet assez facilement, mais parfois c'est intéressant. Bon, là, ça ne joue pas, hein. Je donnais juste cette information. Pour Sœur Jeanne d'Arc, en tout cas, voilà ce qu'on peut lire. Voilà ce qu'elle écrit. Si la graine de blé tombée dans la terre ne meurt, elle demeure seule. Alors il y a une note. Voilà ce qu'elle dit. La graine est la partie de la plante qui se reproduit dans la terre. Le grain est broyé pour faire de la farine et du pain. Donc elle fait la distinction entre ce qu'on plante, qui est une graine, et ce qu'on récolte, qui est un grain. Subtilité française, hein. A kernel en anglais, c'est ni mâle ni femelle, hein. Bon, donc, mais voilà, je trouve que c'est intéressant parce que ça apporte un éclairage, comme toujours les traductions peuvent apporter un éclairage. Et ça nous montre qu'il faut bien distinguer deux choses. C'est que la graine va se transformer en grain. Ce qui signifie que, précisément, je viens de le dire, il y a une transformation. Alors, dans la nature végétale, la seule possibilité d'avoir un fruit, c'est que quelque chose disparaisse. Vous remarquerez que ce n'est pas vrai dans la nature animale. Heureusement que les femmes qui mettent au monde ne meurent pas toutes. Il y en a malheureusement encore, ça peut arriver. Mais heureusement que ce n'est pas le cas. Identique pour les animaux. Donc là, Jésus, c'est intéressant, il prend vraiment le cas, pas du tout d'un engendrement. Non, non, je ne vais pas faire comme si je mourais. Alors que franchement, la femme, quand elle accouche, ça n'a pas l'air drôle, hein. Bon, c'est un homme qui parle, hein. Ça n'a pas l'air drôle, franchement, et c'est l'image qu'on voit souvent dans la Bible, quoi. Quand il se passe un truc calamiteux, assez facilement, l'auteur biblique dit, on croirait une femme dans les douleurs de l'accouchement. Jésus en parlera d'ailleurs, en parlant de sa passion, hein. Voilà, donc on sent qu'il y a vraiment un truc qui est en train de se faire. Ouh là là, on maîtrise plus rien là, qu'est-ce qui se passe? Bon, donc c'est intéressant, mais c'est un engendrement, il n'y a pas de véritable mort. Tandis que là, Jésus dit, voilà, cette graine, elle va réellement disparaître. Et alors ça peut être lu dans une sorte de... Oh, je ne vais pas dire de jansénisme, hein, parce que c'est un peu exagéré, mais voilà, il faut mourir. Ouais. Oui. Sauf que Jésus, il ne va pas que mourir, hein. Il va aussi ressusciter. Et donc, ça nous montre que dans cette graine, il y a un principe de vie qui va éclore. Et donc, en fait, c'est une vraie mort pour une vraie vie. Donc, il y a quelque chose qui ne meurt pas. Ces mutations substantielles, dit-on en philosophie. Il y a quelque chose qui toque, voilà, qui va se passer. Et donc c'est à la fois une mort et à la fois une pas mort, si je puis dire. On a un peu l'impression, en fait, le grain, la graine, elle est enterrée vivante. Je trouve que l'image est intéressante. Elle est enterrée vivante et elle va continuer de vivre en mourant. Voilà, il y a quelque chose d'assez bouleversant là-dedans, de cette idée de vie. Et donc c'est l'image qui est prise par l'Église pour nous parler de Saint Laurent. Bon, là aussi, hein, on trouve tout un tas de choses. Premier diacre martyr, on trouve beaucoup de choses sur lui, surtout Saint Grégoire le Grand qui en parle. Et donc toute cette idée que ces pauvres sont... la richesse de l'Église, bon, ce qui est tout de même assez enthousiasmant, puisque bon, pour à peu près tout le monde, la pauvreté, c'est un drame, quoi. Donc je ne nie pas cette réalité, mais les pauvres sont la richesse de l'Église. C'est-à-dire que les pauvres peuvent devenir la richesse de l'Église. La graine appauvrie devient la vie. Et la condition... Parce qu'il n'en est pas question dans cet évangile, mais la question, évidemment, c'est la terre. Hein, on oublie qu'il y a le mot terre. La graine de blé tombée dans la terre. C'est-à-dire que, alors la terre ici, ben, c'est nous qui pouvons, c'est Saint Laurent précisément, qui va permettre cette transformation de cette graine, de ce pauvre, pour en faire la richesse de l'Église, c'est-à-dire un grain. Qui produit tout ce qu'il doit produire. Voilà, donc ces belles lectures, encore une fois, sur l'agriculture. Ça mérite, hein, d'étudier beaucoup les plantes dans la Bible. Sur les animaux, il y a le bestiaire de la Bible de Jean-François Froger, un livre un peu difficile et un peu gros, mais qui est très intéressant. Et voilà, un livre sur les plantes dans la Bible, la signification des plantes, à quoi sert. Alors on trouve des choses, hein. Mais voilà, c'est très intéressant de regarder un peu comment ça marche, tout ça. En tout cas, Jésus a pris cette image, et s'il l'a prise, c'est qu'elle est bonne. Donc voilà, soyons nous aussi prêts à ces transformations qui ressemblent un peu à mourir, et donc on n'est pas très très joisse, mais sachons que... il y a une vie au-dedans de nous, et qu'elle est plus forte que tout. Par notre baptême notamment, nous avons une vie qui est immortelle. Et donc elle demeure indéfiniment, mais elle a besoin d'un peu plus d'espace parfois pour porter du fruit. Amen.